Chapitre 31. L'atmosphère à la maison n'était pas à l'euphorie. Sauf pour Édouard, mais lui ne se comportait jamais comme les autres. Depuis des mois, il se marrait tout le temps, impossible de lui faire entendre raison. Comme s'il ne comprenait pas la gravité de ce qui se passait. Albert ne voulait pas trop penser à sa consommation de morphine qui avait atteint des quantités comme jamais. On ne peut pas avoir l'œil partout. Et il avait déjà son lot de problèmes insolubles. Il avait ouvert, dès son arrivée dans la banque où il travaillait, un compte au nom du souvenir patriotique pour encaisser les fonds qui arriveraient. 68 220 francs. Voilà, de beaux résultats. 34 000 chacun. Albert n'avait jamais possédé autant d'argent, mais il fallait comparer le bénéfice avec les risques. Il encourait 30 ans de prison pour avoir détourné moins de 5 ans du salaire d'un ouvrier. C'était proprement ridicule. Nous étions le 15 juin. La grande braderie au monument aux morts s'achevait dans un mois, et rien, ou presque. « Comment ça, rien ?» écrivit Édouard. Ce jour-là, malgré la chaleur, il portait un masque nègre, très haut, qui lui recouvrait toute la tête. Au-dessus du crâne, trônaient 2 cornes enroulées sur elles-mêmes, comme celles d'un bélier, et à partir du point lacrymal, 2 lignes pointillées d'un bleu presque phosphorescent descendaient, comme des larmes joyeuses, jusqu'à une barbe bariolée qui s'épanouissait en éventail. Le tout peint dans des ocres, des jaunes, des rouges lumineux, il y avait même, à la limite du front et du couvre-chef, la sinuosité ronde et veloutée d'un vert profond, d'un petit serpent si criant de vérité qu'on l'aurait dit en train de glisser lentement dans un mouvement continu autour de la tête d'Édouard comme s'il se mordait la queue. Le masque coloré, vif, gai, tranchait avec le moral d'Albert qui, lui, se déclinait en noir et blanc et plus souvent en noir. « Ben non, rien !» hurla-t-il en tendant les comptes à son camarade. « Attends !» répondit, comme toujours, Édouard. Louise se contenta de baisser légèrement la tête. Elle avait les mains dans la pâte à papier qu'elle malaxait tendrement, matériaux pour les prochains masques. Elle regardait la bassine émaillée d'un air rêveur, indifférente aux éclats de voix. Elle en avait déjà tant entendu avec ces deux-là. Les comptes d'Albert étaient précis. 17 croix. 24 torches, 14 bustes, des choses qui ne rapportaient rien. Quant au monument, 9 seulement. Et encore, pour 2 d'entre eux, les mairies n'avaient payé que le quart de l'acompte au lieu de la moitié et sollicitaient un délai pour le solde. On avait fait imprimer 3000 reçus pour accuser réception des commandes. On en avait rédigé 60. Édouard refusait de quitter le pays avant d'avoir palpé 1 million, il ne disposait même pas du 10e. Et, chaque jour, approchait le moment où la supercherie serait découverte. Peut-être même la police avait-elle déjà entamé son enquête. Aller chercher le courrier à la poste du Louvre provoquait chez Albert des frissons glacés le long de l'épine dorsale. 20 fois devant la boîte ouverte, il pensa pisser dans son pantalon en apercevant quelqu'un marcher dans sa direction. « De toute manière, lança-t-il à Édouard, tant que ça ne t'arrange pas, tu crois à rien !» Il jeta le livre de compte par terre et enfila son manteau. Louise continua à pétrir sa pâte, Édouard pencha la tête, Albert se mettait souvent en rage et, incapable d'exprimer des sentiments qui l'asphyxiaient, il quittait l'appartement pour ne revenir que tard dans la nuit. Ces derniers mois l'avaient beaucoup éprouvé. À la banque, tout le monde le pensait malade. On ne s'en étonnait pas, les anciens combattants avaient chacun leur stigmate, mais cet Albert semblait plus choqué que les autres. Cette nervosité perpétuelle, ces réflexes paranoïdes. Comme il était néanmoins un gentil collègue, chacun y allait de son conseil. « Faites-vous masser les pieds. Mangez de la viande rouge. Vous avez essayé la décoction de bractées de tilleul ?» Lui se contentait de se regarder dans la glace le matin en se rasant et de constater qu'il avait une tête de déterré. À cette heure-là, Édouard faisait déjà crépiter la machine à écrire en gloussant de plaisir. Les deux hommes ne vivaient pas les mêmes choses. Le moment tant attendu de la réussite de leur ahurissant projet, qui aurait dû être celui d'une communion, d'une ivresse partagée, d'une victoire, les séparait. Édouard, toujours sur son nuage, indifférent aux conséquences, ne doutant jamais du succès, exultait en répondant au courrier qui arrivait. Il se délectait à parodier le style administrativo-artistique qu'il avait imaginé être celui de Jules d'Épremont, tandis qu'Albert rongeait d'angoisse, de regret et aussi de rancune, maigrissait à vue d'œil, devenant l'ombre de lui-même. Plus que jamais, il rasait les murs, dormait mal, une main sur sa tête de cheval qu'il transportait avec lui d'un bout à l'autre de la maison. S'il avait pu, il serait allé travailler avec parce que l'idée même de se rendre le matin à la banque lui retournait l'estomac et que son cheval représentait sa seule et ultime protection, son ange gardien. Il avait dérobé quelque 25 000 francs et grâce aux premiers acomptes des mairies, comme il se l'était promis, et malgré les récriminations d'Édouard, il avait intégralement remboursé son employeur. Il devait tout de même courir sans cesse au-devant des inspecteurs et des vérificateurs, parce que les fausses écritures, elles, continuaient d'exister et de prouver qu'il y avait eu malversation. Il était contraint d'en inventer toujours de nouvelles pour masquer les anciennes. Si on le confondait, on enquêterait, on découvrirait tout. Il fallait partir, mais avec ce qui restait, une fois la banque remboursée, 20 000 francs chacun. Albert, désemparé, se rendait compte maintenant combien il avait cédé facilement à un effet de panique après cette rencontre inopinée et douloureuse avec le Grec. « C'est tout à fait Albert, » aurait dit Madame Maillard si elle l'avait su. « Comme il est assez peureux de nature, il choisit toujours la solution la moins courageuse. Bon, vous me direz, c'est certainement pour ça qu'il est revenu entier de la guerre. Mais en temps de paix, c'est vraiment pénible. S'il trouve une femme un jour, la pauvre devra avoir les nerfs solides. » S'il trouve une femme un jour. En pensant à Pauline, il eut soudain envie de s'enfuir seul, de ne plus voir personne, jamais. Quand il imaginait son avenir s'ils étaient pris, il ressentait de curieuses nostalgies assez malsaines. Certains moments au front, avec le recul, avec la paix et son cortège d'ennuis, lui apparaissaient comme une période presque heureuse, simple, et quand il regardait sa tête de cheval, son trou d'obus devenait presque un refuge désirable. Quel gâchis cette histoire! Pourtant, tout avait bien commencé. Dès que le catalogue était arrivé dans les mairies, les demandes de renseignements avaient afflué. 12, 20, 25 lettres certains jours. Édouard y consacrait tout son temps, se montrait infatigable. À l'arrivée du courrier, il poussait des cris de joie, glissait une feuille de papier à lettres à l'entête du souvenir patriotique dans la machine à écrire, plaçait les trompettes d'Aïda sur le gramophone, montait le son, levait le doigt en l'air comme s'il cherchait d'où venait le vent et plongeait sur le clavier avec ravissement comme un pianiste. Ce n'était pas pour l'argent qu'il avait imaginé cette affaire, mais pour vivre cette euphorie, la volupté d'une provocation inouïe. Cet homme sans visage adressait au monde un gigantesque pied de nez, cela générait en lui un bonheur fou, l'aidait à renouer avec ce qu'il avait toujours été et qu'il avait failli perdre. Presque toutes les demandes des clients concernaient des aspects pratiques, les modes de fixation, les garanties, le système d'emballage, les normes techniques auxquelles devaient obéir les socles. Sous la plume d'Édouard, Jules d'Épremont avait réponse à tout. il rédigeait des courriers extrêmement informés, totalement rassurants et personnalisés. Des lettres qui donnaient confiance. Les édiles ou les instituteurs secrétaires de mairie expliquaient fréquemment leurs projets, mettant involontairement en lumière la dimension immorale de cette escroquerie parce que l'État ne contribuait à ces achats de monuments que de manière symbolique et en proportion de l'effort et des sacrifices consentis par les villes en vue de glorifier, etc. etc. Les municipalités mobilisaient ce qu'elles pouvaient, mais souvent, ce n'était pas grand-chose. L'essentiel reposait donc sur des souscriptions populaires. Des individus, des écoles, des paroisses, des familles entières y allaient de leur obol pour que le nom d'un frère, d'un fils, d'un père, d'un cousin soit à jamais gravé sur un monument commémoratif qui trônerait au centre du village ou à côté de l'église pour l'éternité, croyait-il. Devant la difficulté de réunir les sommes assez rapidement pour profiter de la promotion exceptionnelle proposée par le souvenir patriotique, bien des courriers sollicitaient des arrangements, des aménagements concernant le règlement. Était-il possible de retenir un modèle en bronze avec une avance de 660 francs seulement? Cela faisait tout de même 44% de l'acompte au lieu des 50 exigés, plaidait-on, mais voyez-vous, les fonds rentrent un peu lentement. Nul doute que nous serons à même de faire face à l'échéance. Nous nous y engageons. Les enfants des écoles ont été mobilisés pour procéder à des quêtes auprès de la population, expliquait-on ailleurs. Ou encore, Madame de Marsante compte léguer à la ville une partie de sa fortune. Dieu nous préserve de sa disparition, mais n'est-ce pas une garantie acceptable pour l'achat d'un beau monument pour Chaville-sur-Saône qui a perdu près de 50 jeunes hommes et doit subvenir à la subsistance de 80 orphelins. Cette date butoir du 14 juillet, si proche, en effrayait plus d'un. À peine le temps de consulter le conseil municipal, mais l'offre était tellement attractive. Édouard Jules d'Épremont, grand seigneur, accordait tout ce qu'on voulait, ristourne exceptionnelle, délai, jamais aucun problème. Il commençait généralement par complimenter chaudement son interlocuteur de l'excellence de son choix. Qu'il souhaite acquérir, à l'attaque, une simple torche funéraire ou le coq foulant un casque Bosch, il reconnaissait discrètement qu'il nourrissait lui-même une secrète prédilection pour ce modèle. Édouard adorait cet instant de l'aveu prétentieux dans lequel il mettait tout le ridicule vu chez ses professeurs compassés et satisfaits des beaux-arts. Concernant les projets composites, lorsque par exemple on envisageait d'apparier la victoire avec le poilu mourant en défendant le drapeau, Jules d'Épremont se disait toujours enthousiaste, n'hésitant pas à féliciter son correspondant de la finesse de son approche artistique, s'avouant même surpris par l'inventivité et le bon goût de cette combinaison. Il se montrait tour à tour compatissant sur le plan financier, généreux dans sa compréhension, excellent technicien, parfaitement informé et maître de son ouvrage. « Non, assurait-il, pas de problème avec l'enduit ciment. » Et oui, la stèle pouvait être conçue avec de la brique à la française. Oui, oui, absolument, en granit aussi, tout à fait. Et naturellement, tous les modèles du souvenir patriotique étaient agréés. D'ailleurs, le certificat estampillé du ministère de l'Intérieur accompagnerait la livraison de l'œuvre. Il n'y avait aucun exemple qu'une difficulté n'eût trouvé sous sa plume une solution simple, pratique et apaisante. Il rappelait obligeamment à ses interlocuteurs la liste des pièces nécessaires à l'obtention de la maigre subvention de l'État, délibération du conseil municipal, croquis du monument, avis de la commission chargée du point de vue artistique, devis estimatif de la dépense, indication des voies et moyens, et délivrait quelques conseils en la matière et rédigeait un superbe récépissé de commandes en échange du versement de l'acompte. La touche finale aurait mérité à elle seule de figurer dans les annales de la parfaite arnaque. À la fin du chapitre, « J'admire l'excellence de votre goût et l'ingéniosité de la composition que vous avez choisie », avec des circonlocutions qui traduisaient son hésitation et son scrupule, Édouard écrivait souvent, en adaptant ce passage à toutes les combinaisons qui se présentaient, « Votre projet, constituant un agencement dans lequel le goût le plus artistique se conjugue admirablement avec le sens le plus patriotique, je vous consens, au-delà de la remise déjà accordée cette année, une réduction supplémentaire de 15%. Considérant cet effort tout à fait exceptionnel que je vous conjure de ne point ébruiter, je vous demanderai de régler la compte initiale dans sa totalité. » Édouard admirait parfois sa page à bout de bras en poussant des gloussements de contentement. Ce vaste courrier qui l'occupait énormément laissait, selon lui, présager de la réussite de l'opération. On continuait de recevoir, la boîte postale ne désemplissait pas. Albert, lui, renâclait. « T'en fais pas un peu trop ? » demandait-il. Il imaginait sans peine à quel point ses lettres, toutes pleines de miséricorde, aggraveraient les charges qui pèseraient contre eux s'ils étaient arrêtés. Édouard, lui, d'un geste royal, montrait qu'il était un grand seigneur. « Soyons compatissants, mon cher, » griffonnait-il pour répondre à Albert. « Ça ne coûte rien, et ces gens ont besoin d'encouragement. Ils participent à une œuvre magnifique. En fait, ce sont des héros, non ?» Albert était un peu choqué, traité de héros par dérision des gens qui se cotisaient pour un monument. Édouard retirait alors brusquement son masque et exhibait son visage, ce trou béant et monstrueux, au-dessus duquel le regard, seule trace vivante et humaine, vous fixait avec intensité. Albert ne le voyait plus très souvent, ce reste de visage, cette horreur, parce que Édouard passait sans cesse d'un masque à l'autre. Il arrivait même qu'il s'endorme sous les traits d'un guerrier indien, d'un oiseau mythologique, d'une bête féroce et joyeuse. Albert, qui se réveillait toutes les heures, s'approchait de lui et, avec des précautions de jeune père, lui retirait son masque. Dans la pénombre de la pièce, il regardait alors son camarade dormir, frappé, si ce n'avait été ce rouge omniprésent, par l'effrayante ressemblance de ce qui restait de cette face avec certains mollusques céphalopodes. En attendant, et malgré l'énergie qu'Édouard mettait à répondre à ses nombreuses demandes, les commandes fermes n'arrivaient pas. « Pourquoi ?» demandait Albert d'une voix blanche. « Que se passe-t-il ? On dirait qu'ils ne sont pas convaincus par les réponses. » Édouard mimait une sorte de danse du scalp. Louise pouffait de rire. Albert, au bord de la nausée, reprenait ses comptes, vérifiait. Il ne se souvenait plus de son état d'esprit d'alors, tant l'inquiétude avait ensuite tout submergé, mais les premiers paiements à la fin mai avaient créé une certaine euphorie. Albert avait exigé que les fonds soient d'abord consacrés à rembourser la banque, ce qu'Édouard avait évidemment contesté. « Mais à quoi ça sert de rembourser une banque » avait-il écrit sur le grand cahier. « On va s'enfuir avec des fonds volés de toute façon. Voler ceux d'une banque, c'est tout de même le moins immoral. » Albert n'en démordit pas. Il s'était coupé, une fois, en parlant de la banque d'escompte et de crédit industriel, mais visiblement Édouard ne savait rien des affaires de son père, le nom lui était étranger. Pour se justifier devant son camarade, il ne pouvait décemment pas ajouter que M. Péricourt avait été bien bon de lui proposer cet emploi et qu'il répugnait à l'arnaquer davantage. C'était une morale élastique, bien sûr, puisque, par ailleurs, il tentait d'escroquer des inconnus, dont pas mal de conditions modestes, qui cotisaient afin d'ériger un monument en souvenir de leur mort. Mais M. Péricourt, il le connaissait personnellement, ça n'était pas pareil. Et depuis Pauline, en plus, enfin bref, il ne pouvait s'empêcher de le considérer un peu comme son bienfaiteur. Peu convaincu par les étranges raisons d'Albert, Édouard avait cédé et les premiers règlements remboursèrent la banque. Après quoi, ils avaient, chacun à sa manière, effectué une dépense symbolique, s'étaient fait un petit plaisir, promesse de l'avenir florissant qui les attendait peut-être.